9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
C'était pendant l'hiver le plus rigoureux du XVIIIe siècle, celui de 1709. Vous savez, le grand hiver avec un Y de Louis XIV. Je m'étais aventuré dans une boucle gelée de la Seine du côté des Andelys pour y rencontrer un auteur de théâtre retiré du monde. Un auteur de théâtre qui avait un immense succès et qui portait le nom de Corneille. Il portait le nom de Corneille, mais son prénom n'était pas Pierre. Son prénom, c'était Thomas. Imaginez partout des arbres qui ploient sous la neige, des glaçons au bord des toitures, des carreaux fendus par le givre. Les enfants patinent sur le fleuve, tandis que des familles entières ont, dit-on, gelé, je dis bien gelé, à 3 lieues à peine des Andelys. En dépit des flambées dans tous les âtres, on n'arrive plus à chauffer les chambres et les salons. Eh bien, c'est dans ce moment glacial que j'ai donc rencontré Thomas Corneille. Ah, il faut imaginer un très vieux monsieur qui avait du mal à se servir encore de ses mains. D'ailleurs, quand il écrivait, désormais, il en était réduit à dicter ce qu'il avait à écrire. Il n'entendait plus très bien. Il était d'un autre siècle. Il avait été l'une des gloires du XVIIe siècle parce que ce que nous avons tendance, nous, à oublier, c'est que derrière l'immense Pierre Corneille se cache un Thomas Corneille qui, en son temps, a connu un très grand succès. « Monsieur, m'a-t-il dit, je ne vais pas vous faire sa voix de vieillard. Près de 60 années durant, j'ai vécu dans l'intimité, d'aucun dirait dans l'ombre de l'auteur le plus prisé du dernier siècle. De ses 8 frères et sœurs, dont 4 auront vécu, je suis, en dépit d'un écart entre nous de 19 ans, et oui, il y avait presque 2 décennies entre Pierre et Thomas Corneille, je suis celui qui l'aura sans doute le mieux connu. Combien de fois l'ai-je surpris à lisser sa moustache du bout de sa plume effrangée, à marmonner, se croyant seul, la tirade d'une amoureuse éplorée ou d'un vieillard aigretant, et puis griffonner, biffer, reprendre, froisser un feuillet qu'il pensait jeter à la cheminée, mais ne faisait qu'envoyer sous quelques meubles. Je l'ai soutenu dans ses entreprises, je l'ai loué de ses succès et plein de ses malheurs, je l'ai 1000 fois conseillé et tensé 1000 fois, car il était opiniâtre, mon frère. Comme ce jour où, voulant à toute force lire chez madame de Rambouillet, je crois, une pièce qu'il n'avait point achevée, il passa 2 jours et 2 nuits sans repos jusqu'à sombrer à table dans son ragoût. « Mais ne poussons point les chevaux, me dit le vieux Thomas Corneille. Vous savez, mon frère était ce qu'il était et je n'ai jamais eu pour lui que l'amour le plus fraternel. » La Providence avait en effet naître Thomas Corneille au sein de cette fratrie Corneille à la fin de l'été 1625, c'est-à-dire au moment précis où l'aîné, où celui qui déjà était en train de devenir quelqu'un, il était procureur à la table de marbre de Rouen, était en train d'enfanter sa première comédie. Car ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'avant toutes ces grandes et célèbres tragédies, Corneille aura écrit 9 comédies. On ne cite généralement que le menteur, mais il y a eu Mélite et la place du palais, etc., etc. Il est vrai qu'en ce temps, Corneille l'aîné, Pierre, au moment de la naissance de son frère, avait à l'esprit tout autre chose. Je vous ai dit, il avait quasiment 20 ans et figurez-vous qu'il était amoureux. Il s'était vu repoussé par sa promise, la belle Catherine U, au profit d'un conseiller maître à la Cour des comptes de Normandie. Et évidemment, ça n'a pas aidé cette psychologie déjà un peu perturbée qui était celle de Pierre Corneille. « Oh, me dit Thomas, j'ai relu Mélite l'an passé, c'est une pièce assurément qui laisse par bien des traits deviner le génie qui plus tard devait s'épanouir dans le théâtre de mon frère. » J'ai voulu répondre à Thomas Corneille, mais la vérité c'est qu'il s'était déjà assoupi.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je vous l'ai dit, il était né à Rouen le 20 août 1625, frère donc de Pierre, auquel il succédera à l'Académie française le 23 novembre 1684, c'est-à-dire après, juste après la mort de ce frère aîné, qui l'a toujours soutenu, qui l'a toujours porté d'une certaine manière. Ça ne s'invente pas. Jean Racine lui-même, d'ailleurs, qui fera son discours de réception à l'Académie. Incroyable. Vous imaginez quelle époque complètement folle. Alors, on connaît toutes les pièces de Pierre Corneille qu'on étudie encore aujourd'hui. On a oublié celle de Thomas et pourtant, il a laissé 42 pièces de théâtre, dont certaines ont été des succès tellement importants qu'ils ont, en leur temps, éclipsé le succès de celle de son frère aîné. Je pense à Ariane, le comte d'Essex. Alors c'est vrai qu'il a aussi versifié la comédie de Molière, Le Festin de Pierre, dont vous me permettrez de penser qu'elle n'était peut-être pas entièrement de Molière. Je ne veux sûrement pas rouvrir aujourd'hui cette polémique. Il a écrit beaucoup de grandes pièces qui ont été très applaudies. C'était par ailleurs un grammairien, Thomas Corneille, qui a travaillé au dictionnaire de l'Académie, qui a fait un dictionnaire universel géographique et historique, qui a fait des remarques de Vaugelas, c'est-à-dire qu'en fait, il travaillait sur la pureté de la langue. On présente toujours son frère Pierre comme le parangon de toutes les vertus syntaxiques et grammaticales. Eh bien, il est probable que Thomas ait été lui-même encore plus féru de pureté linguistique que ne l'avait été son frère. Je cite Jean Marmier qui nous dit « À la fois bénéficiaire et victime de la gloire de son grand frère, Thomas Corneille s'applique, semble-t-il, à le suivre en tout point, de loin, avec vénération et plus encore avec une indéfectible et chaude affection, d'ailleurs réciproque. » Alors il y a eu Timocrate en 1656 qui a été un grand succès, Circé en 1675, Ariane, je vous l'ai dit, et le comte d'Essex, ça c'était en 1679. On peut dire que une grande partie des succès du théâtre du Marais qui avait pourtant accueilli toutes les grandes pièces de Pierre Corneille sont dus en vérité à Thomas. Et je me permettrai un petit saut en avant pour vous rappeler qu'en 1793, quand Charlotte Corday, qui était la descendante de Pierre Corneille, on l'oublie parfois, mais c'était l'arrière-petite-nièce de Pierre Corneille, Charlotte Corday, celle qui avait tué Marat, quand elle est guillotinée, vous savez, quand elle est condamnée, au moment de monter à l'échafaud, c'est pas un vers de Pierre Corneille qu'elle va citer, c'est un vers de Thomas et qui dit « Le crime fait la honte et non pas l'échafaud ». Noire fille du Styx, un extrait de la Médée de Charpentier. C'est Lorraine Hunt accompagnée par les Arts Florissants sous la direction de William Christie.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie de Thomas Corneille, c'est que lorsqu'il en a eu l'âge, il a épousé la petite sœur de celle qui déjà était l'épouse de Pierre Corneille, Marie de Lampérière. Les deux ménages, désormais, vont cohabiter, et non seulement cohabiter, mais se soutenir, mais créer une des choses les plus extraordinaires qui soient, c'est-à-dire, non pas un ménage à quatre, hein, bien sûr, mais deux ménages d'un frère de deux frères et de deux sœurs qui vont partager le même toit pendant de nombreuses années, non seulement à Rouen, bien sûr, vous savez que les frères étaient originaires de la rue de la Pie et Pierre vivait dans la maison qui est encore debout aujourd'hui, même si elle a été largement remaniée. Thomas, lui, vivait dans la maison d'à côté, avec beaucoup de liens entre les deux maisons, qui étaient les liens entre les deux ménages, d'une certaine façon. Mais lorsque Pierre Corneille, pour des raisons sur lesquelles je ne m'appesantirai pas aujourd'hui, est obligé de quitter Rouen et d'aller s'installer à Paris, son frère le suit. À moins d'ailleurs que ce ne soit Pierre qui ait suivi Thomas, ça personne ne le saura jamais. Il y a dans la vie de ces deux ménages et dans l'existence croisée constamment soudée de ces deux frères, il y a des mystères qui n'ont pas encore tous été révolus. Ce n'était qu'une même maison, qu'un même domestique. Enfin, plus de 25 ans de mariage, nous dit un chroniqueur, pendant plus de 25 ans de mariage, les deux frères n'avaient pas encore songé à faire le partage des biens de leur femme et ce partage ne fut fait que par une nécessité indispensable à la mort de Pierre Corneille. Et plus tard, c'est Ducis qui devait s'attendrir devant cette espèce de double union assez parfaite. Veillait au bonheur des deux frères, filant beaucoup, n'écrivant pas. Les deux maisons n'en faisaient qu'une, dit-il à propos des deux sœurs. La clé, la bourse étaient communes. Les enfants confondaient leurs jeux. Les pères se prêtaient leurs rimes. Le même vin coulait pour eux. Je trouve ça assez extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'à l'époque encore où les deux frères vivent à Rouen, même si Pierre passe beaucoup de temps à Paris parce qu'il a une vie mondaine pendant ce qu'on appelle la saison, c'est-à-dire pendant l'hiver, on voit Thomas s'essayer au théâtre. Et c'est vrai que pour un coup d'essai, il aura connu un coup de maître avec Timocrate qui sera joué en même temps par les deux troupes rivales du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne. C'est une chose assez extraordinaire. Et elles ne vont pas jouer cette pièce pendant une semaine ou deux, comme c'était d'habitude le cas, elles vont les jouer pendant des mois. Et tout Paris connaît par cœur les vers de Timocrate. C'est assez extraordinaire. Alors, il y en a qui lui disent à Thomas qu'il faut qu'il s'en tienne là, qu'il a eu un tel succès, étant déjà le petit frère de qui l'on sait, qu'il n'aura jamais plus l'occasion de connaître au théâtre des triomphes de cet acabit. Et puis finalement, lui va continuer, il va persister, il va tellement persister qu'il en vient, et ce sera le drame de sa vie, et c'est extrêmement passionnant à comprendre, il en vient peu à peu à éclipser la gloire de son frère. C'est terrible quand vous êtes parfaitement conscient d'être le frère d'un génie et que, par un injuste caprice dont seul le public a le secret, disait-il, par cet injuste caprice, vous voyez le public applaudir vos propres pièces, que vous savez pourtant inférieures à celles de votre frère, davantage qu'ils ne l'ont fait pour les autres pièces, pour les pièces de Pierre. D'une certaine manière, on doit pouvoir dire que Thomas a éprouvé une forme de honte dans ce triomphe. C'est un paradoxe extraordinaire. Alors ils vont quitter, je vous l'ai dit, Rouen tous les deux, enfin tous les quatre, puisque ce sont deux ménages qui s'en vont, s'installer à Paris. Ils sont logés par le duc de Guise, Henri II de Lorraine. Alors on sait que Pierre est logé par le duc de Guise, ça c'est certain. La chronique ne nous dit pas où vit exactement Thomas, mais il est très probable qu'il partage le même toit. De même, d'ailleurs, que lorsqu'à deux reprises, Pierre Corneille sera amené à déménager dans Paris, peut-être un peu pour se rapprocher d'ailleurs de la troupe de Molière, à deux reprises, le couple formé par Thomas et son épouse le suivront et Thomas participe à l'écriture des pièces de la cour comme Psyché, bien entendu. Il y a également trois auteurs dans Belle les Rofonds. Tout ça est intriqué. On peut dire des frères Corneille, non pas qu'ils forment une même plume, ça ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que Pierre ait, contrairement à ce que certains ont pu prétendre, beaucoup contribué au triomphe et au succès, en tout cas des pièces de son frère. Mais il est certain qu'ils écrivaient en même temps, sous le même toit, et probablement en s'encourageant mutuellement et en s'aidant. Et c'est là que se pose la question finale. Pourquoi ? Au moment où Pierre Corneille, qui a connu tant de revers, qui vient de perdre son plus jeune fils, qui est dans une situation de grande difficulté, au moment où il est obligé d'abandonner son bel appartement pour aller vivre dans un garni, comme on disait à l'époque, qui n'était plus tout à fait digne de la gloire que lui-même avait pu être, pour quelle raison est-ce que cette fois, Thomas ne l'a pas suivi ? Je ne serais pas étonné qu'on m'apprenne un jour, mais ça, Thomas ne me l'a pas dit dans l'entretien que nous avons eu aux Andelys, n'est-ce pas ? Je ne serais pas étonné... Ah, le voilà qui se réveille d'ailleurs. Je ne serais pas étonné que ce n'ait pas compté pour rien dans la mort de son frère. Les talents lyriques, sous la direction de Christophe Rousset, interprétaient cette ouverture de la Psyché de Lully et, comme pour l'Amédée de Charpentier, il est plus que probable que Thomas Corneille ait participé à l'écriture du livret de cet opéra.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Je dis opéra, comédie, ballet serait d'ailleurs plus juste. Alors il s'est réveillé, Thomas Corneille, et découvrant que j'étais toujours là, en train de me geler dans cette pièce qu'on n'arrivait du reste pas à réchauffer, il m'a montré dans la bibliothèque tout l'œuvre de son frère et il m'a dit « Ah, on n'a pas encore compris, on n'a pas compris, mais un jour on reprendra tout ça, vous verrez. » C'était prophétique ô combien. Et je lui ai répondu « J'en accepte l'augure et j'ose l'espérer. » Il n'a pas relevé. Il suivait sa pensée. « Oh, forcément, me dit-il, ça prendra du temps. Le temps est un grand maître, il règle bien des choses. » Et là, il m'a quand même regardé drôlement. Avant de reprendre, écoutez, c'est comme ça. Fini Corneille l'aîné, les gens ne veulent plus voir que Corneille le jeune. Et c'est de lui qu'il parlait, bien sûr. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, comme vous dites. En tout cas, moi, quand je vois cela, j'enrage, me dit-il. À raconter ces mots, souvent on les soulage. Vous devez me trouver un peu dur, non ? Un peu de dureté sied bien nos grandes âmes. Oui, vous trouvez ? Enfin, merci du compliment. Je le ferais encore si j'avais à le faire. Et là, j'ai compris que, à force de citer son grand frère, je finissais peut-être par l'agacer un peu. Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé, me dit-il. Et cette fois, c'est lui qui citait son frère. Oh, je lui dis que... Son frère avait l'art d'amener les vers, mais que lui savait présenter les pièces au public et que lui savait aller chercher dans le public ce qu'il attendait, ce qu'il venait trouver au théâtre. C'est vrai, le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé, mais lui me répondit « La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et le vieux Thomas, avant de me congédier dans cet hiver normand, dans cet hiver de 1709 qui n'en finissait pas de porter partout la neige, le givre et le verglas, Le vieux Thomas, avant de me renvoyer gentiment, m'a tendu une feuille imprimée. Et cette feuille, ce n'était pas un texte de lui, bien entendu. C'était l'obsession de sa vie. C'était la profession de foi littéraire de son frère aîné. Cette profession de foi, c'est moi qui la baptise ainsi, s'intitule « L'excuse à Ariste ». Et voici ce qu'écrivait Pierre Corneille qui, bien que souvent méprisé des milieux élégants et notamment des précieuses dont il essaiera de se venger à plusieurs reprises, et bien que parfois ignoré d'un public qui n'avait pas compris toujours l'extraordinaire beauté de ses vers, rappelez-vous son échec, l'échec de Tite et Bérénice face à la Bérénice de Racine par exemple, qui avait, lui, compris en tout cas ce qu'il valait et qui il était. Qui il était, c'est-à-dire sans doute le plus grand de tous nos poètes, c'est-à-dire sans doute le Cervantes ou le Shakespeare français, c'est-à-dire celui qui, sans jamais cesser d'aimer son petit frère, aura constamment surclassé par les vers, par le génie, par une inspiration extraordinaire, celui dont il aura été d'ailleurs lui-même l'inspiration ou tout au moins l'inspirateur. Je vous lis quelques vers de cette excuse à Ariste. « Nous nous aimons un peu, c'est notre faible à tous. » Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous? Et puis, la mode en est et la cour l'autorise. Nous parlons de nous-mêmes avec toute franchise. La fausse humilité ne m'est plus en crédit. Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit. Pour me faire admirer, je ne fais point de ligue. J'ai peu de voix pour moi, mais je les ai sans briguer. Mon ambition pour faire plus de bruit ne les va point quêter de réduit en réduit. Mon travail sans appui monte sur le théâtre. Chacun en liberté, l'iblâme ou l'idolâtre. Et sans que mes amis prêchent leurs sentiments, j'arrache quelquefois trop d'applaudissements. Là, content du succès que le mérite donne, par d'illustres avis, je n'éblouis personne. Je satisfais ensemble et peuple et courtisans. Et mes vers, en tout lieu, sont mes seuls partisans. Par leur seule beauté, ma plume est estimée. Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée et pense toutefois n'avoir point de rival à qui je fasse tort en le traitant d'égal. Mais insensiblement, je bâille ici le change et mon esprit s'égare en sa propre louange. Sa douceur me séduit, je m'en laisse abuser et me vante moi-même au lieu de m'excuser.
Vous écoutez Radio Classique.
Nous nous sommes demandé pendant tout un moment avec Christian s'il fallait faire ce passage d'antenne en alexandrin. Puis finalement, on s'est dit que la prose avait aussi ses charmes et même son naturel, n'est-ce pas, mon cher Christian ?
Mais j'ai apprécié, si vous le permettez, le seul spectateur lors de ces répétitions du texte. Jérémy Bigori, Sébastien applaudissent derrière la régie, on ne les entend pas. On enregistrera les applaudissements la prochaine fois. Mais j'ai écouté, je sais ce que je vaux.
Et crois ce qu'on m'en dit.
Et voilà, c'est ce que j'ai aimé. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ce qui se passe actuellement autour de nous, et en politique en particulier, où enfin, on a ce spectacle-là, qui est un spectacle peut-être d'une forme de comédie.
Alors, comédie ou tragédie? Ou les deux, peut-être?
Ah, peut-être les deux, on ne sait pas. Ça commence par une comédie, ça termine par une tragédie. À propos de tragédie, ce matin, avec Marc Bourreau, je vous écoutais parler du 24 octobre 1940. Ça, c'est une tragédie.
Ah là, oui, c'était en tout cas un drame dramatique. Un drame effrayant.
Le mot de collaboration prononcé par Pétain, rencontrant Hitler à la gare de Montoire. Et cet après-midi, tout ça préparé par Laval d'ailleurs, vous l'avez évoqué aussi. Cet après-midi, c'est d'un autre maréchal que vous allez parler. Mais lui, qui n'est pas rentré dans l'alignement du communisme, c'est Tito.
Oui.
La Yougoslavie, ça, c'était un
lui,
personnage
c'était un grand résistant dans son pays.
Oui. Exactement, oui, oui. Donc 14h avec Franck Ferrand, et puis le plaisir de se retrouver dès demain matin. Mon cher Franck, bonne journée.